Bali, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Philippe Osney, pasteur, auteur, ancien aumônier de prison, aumônier et écoutant de l'association Oser en parler, expert sur le site c'estmavie.tv, chroniqueur sur le site pigeonfuté.com. Il exerce un ministère itinérant, particulièrement auprès des personnes en souffrance. Pasteur Philippe Osney, bonsoir.
Bonsoir Chantal.
Alors, le sujet de réflexion et de partage ce soir, renoncer à soi-même et porter chaque jour sa croix. Comment donc le vivre? Et peut-on peut-être aussi, pouvons-nous ajouter, on verra aussi, sans tomber dans le dolorisme?
Oui, parce qu'il y a bien sûr des extrêmes.
Et voilà, alors on va voir aussi comment le vivre, bien le vivre.
Avec équilibre.
Avec l'équilibre. Voilà, alors vous avez beaucoup travaillé, pasteur Philippe Osney, le sujet, parce que dans votre livre, vous en parlez particulièrement dans votre livre, « Ta souffrance peut devenir féconde ». Et bien justement, oui. C'est le contraire du dolorisme, ça. Hein.
Tout à fait.
Ta souffrance peut devenir féconde.
La souffrance devient comme un champ, oui. Dans lequel poussent des jolies plantes. Et puis ces plantes vont s'élever vers le ciel et vont porter du fruit d'une manière éternelle. Alors c'est notre responsabilité de transformer finalement une sorte de champ de mines qui peuvent exploser, oui. En un champ cultivable et un terreau qui ensuite va permettre à des jolies plantes, celles de Dieu, de s'étendre, de se développer. Et c'est notre responsabilité.
Voilà, donc on a un rôle à jouer. Donc
un choix.
Un choix. Et donc vivre la souffrance d'une certaine façon, qui est tout le contraire de se plaindre ou de dolorisme, en fait, tout ça.
Enfin, ben oui, parce que quand on se plaint, on n'est pas content, on est de mauvaise humeur, et le fond de notre cœur est tapissé de révolte.
Oui, bien sûr. Hein,
et la révolte, on le sait, ne peut pas plaire à Dieu. Jésus-Christ ne s'est pas révolté contre son Père. Il a simplement dit, au moment de ses souffrances les plus importantes, « Père, si tu peux éloigner ces souffrances de moi, donc là c'est la coupe, il parlait de la coupe, si cette coupe tu peux l'éloigner, fais-le. Toutefois, non pas ma volonté,
mais
la tienne. » Alors ça n'a rien à voir avec de la révolte, c'est de la transparence, c'est de la sagesse. Hein, il s'exprime. Et justement, quand on renferme tout, quand on s'isole, quand on refoule à l'intérieur de nous, c'est là que la révolte peut se manifester.
Ça fait cocotte minute et ça, voilà.
Et après, ça risque d'exploser. Alors Jésus avait cette relation vivante avec Dieu, dans la transparence, toutes les nuits, il priait. Et je pense qu'il y avait un dialogue vraiment entre lui et le Père.
Bien sûr. Oui.
Et c'est ça qui l'empêchait de tomber dans la révolte ou dans le dolorisme.
Oui.
Hein, le dolorisme, c'est donc chercher à se faire mal, hein, pour plaire à Dieu. Or, Dieu ne nous a jamais demandé ça.
Mais bien sûr. Mais
oui. Il n'a jamais dit ça. Il nous demande de renoncer à nous-mêmes et de porter notre croix. Pendant cette émission, on va expliquer ce que ça veut dire.
Bien sûr.
Mais c'est pas du dolorisme, ça.
Alors, ta souffrance peut devenir féconde, c'est aux éditions première partie.
Oui, c'est un livre qui a été remanié, c'est la seconde édition. Ouais. Donc, ta souffrance peut devenir féconde, édition première partie. Donc, l'auteur, c'est moi-même, Philippe Osney. A-U-Z-N-E-T. Je le dis pour ceux qui noteraient.
Très bien. Voilà, comme ça, vous savez tout, on le redira aussi.
Et c'est un livre qui a, je le dis au passage, c'est un livre qui a transformé des gens, notamment par exemple des femmes assez dépressives, mais des dépressions datant de 10-15 ans, se sont mises à lire ce livre qui explique comment transformer la souffrance. Et elles l'ont lu, elles l'ont mise, la caractéristique commune, elles l'ont mise sur leur table de nuit, et elles l'ont lu sur 6 mois, des petits passages chaque soir, des extraits, et petit à petit leur vie s'est transformée.
Mais oui.
Je pense qu'elles ont compris que peut-être qu'il ne fallait pas se révolter ou
oui, parce qu'il
y a quelquefois des traumatismes et des douleurs, des souffrances, des épreuves qui provoquent une dépression.
Ben oui, bien sûr.
Et on appelle ça d'ailleurs une dépression réactionnelle quand il y a une cause qu'on connaît.
Bien sûr. Alors voilà, c'est un livre qui peut transformer des vies justement. Ta souffrance peut devenir féconde. Alors souffrance, bien sûr, on peut peut-être commencer par beaucoup d'écrivains ont parlé de la souffrance.
Oui, bien sûr, puisque toute personne a l'occasion dans sa vie un jour de souffrir. Certains sont protégés, tant mieux. Mais un jour ou l'autre, on y passe, ne serait-ce qu'un deuil, ne serait-ce qu'une mauvaise santé provisoire ou définitive. Enfin, on a tous un jour souffert. Alors c'est vrai que beaucoup se sont exprimés sur la question, et donc c'est un philosophe grec, Épicure, tout le monde connaît ce nom.
Bien sûr, oui.
Dans l'extrait de Lettre à Ménécée, il dit ceci: tous nos actes visent à écarter de nous la souffrance et la peur. Autrement dit, nous sommes perpétuellement à la recherche du plaisir et du bonheur, ce qui me paraît bon signe.
Bien sûr.
Et donc on écarte systématiquement
ce qui peut faire souffrir,
sujet de peur ou de souffrance. Ouais. Et c'est, j'allais dire que c'est logique et que c'est bon. Alors maintenant, dans la mesure où en le faisant, on se révolte et où on refoule, où on a un comportement qui nous détruit, c'est là où il faut faire attention.
Ah oui, bien sûr.
Il faut faire attention et peut-être revenir sur ses pas. Et procéder différemment, au niveau état d'esprit.
Oui, oui, c'est un signal que ce n'est pas le bon chemin.
Mais oui, parce que la souffrance, c'est bien connu, la souffrance nous détruit un petit peu, toujours en partie. Mais si elle nous détruit totalement,
évidemment, c'est pas le...
Il y a quelque chose là que Dieu ne veut pas,
ben oui.
Parce qu'il recherche notre bonheur. Ça peut passer bien sûr par des purifications, par des moments très difficiles, où c'est vrai, Dieu, en quelque sorte, il a comme un, comment ça s'appelle là, pour sculpter un ciseau à bois.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et puis il va nous tailler en quelque sorte.
Mais
va,
pour affiner.
Voilà, mais son but, c'est pas de nous mettre le couteau sous la gorge et de nous faire mourir. Sinon, il y a longtemps que ça aurait été fait. Parce qu'on méritait la mort à cause de notre péché. Et la Bible le dit, le salaire du péché,
c'est la mort.
C'est la mort. Mmh. Alors, Dieu ne désire pas nous faire mourir. Et je dirais même que Jésus, comme protection, est mort à notre place, justement. Mmh. Donc, il nous faut perdre cette pensée pessimiste quand on passe par des épreuves terribles. Il nous faut perdre cette idée que Dieu recherche notre mort. Que Dieu recherche notre destruction totale. Non, il veut peut-être nous purifier pendant cette épreuve. Or, pour être purifié, il faut se laisser faire.
Ben oui.
Un vêtement qui ne veut pas être lavé va refuser de rentrer dans la machine à laver. Bon, il ne le peut pas en l'occurrence, il n'est pas vivant.
Bien sûr.
Mais l'être humain, lui, il est vivant, il peut refuser.
Bien sûr, c'est sa liberté.
Ce traitement et dire non, je ne veux pas passer par là. Et c'est comme quelqu'un qui va chez le dentiste. Hein, et le dentiste lui dit, malheureusement, madame, il va falloir arracher cette dent. Alors, la personne en question peut très bien tout à coup se lever de la chaise, et puis dire, je m'en vais. Hein, oui. Mais elle va s'exposer à quoi? La dent va carier encore plus, ça sera pire après. Et si on arrache une dent... Il y a bien une raison.
Bien sûr.
C'est pour éviter de souffrir après. Et quelquefois, Dieu nous fait passer par des épreuves qui sont comme prévisionnelles. Hein. Elles sont préventives. Elles sont là, en fait, pour nous protéger de souffrances ultérieures. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il nous faut trouver l'équilibre entre le dolorisme, on le disait, qui est le fait de baisser les bras, puis de dire, allez, encore, je vais souffrir, j'ai un chemin de douleur, une vie de douleur. Et c'est pas bien de faire ça.
Non, c'est sûr.
Et c'est pas le chemin de Dieu.
Il y a une sorte de fatalisme aussi en même temps.
Exactement, exactement, Chantal. Et puis l'extrême, c'est de ne pas du tout tenir compte de la souffrance. On se blinde. Tu vas bien ? Oui, ça va très bien. Mais on sait très bien que cette personne ne va pas. Mmh. Mais elle nous dit tout le temps qu'elle va bien.
Oui, c'est une sorte de déni, là.
Il y a un déni. Oui. Alors ça, c'est l'autre extrême, où on vit dans le déni. Et ben, la souffrance peut pas faire son œuvre. Et j'ai eu une citation d'un écrivain français. C'est un extrait de Un bien fou. Il dit ceci, Eric Neuhoff. La souffrance est un bon professeur.
Elle enseigne.
Et puis il y a André Mathieu, dans un autre extrait, celui de Nathalie. Il dit, c'est par la souffrance que l'on grandit le plus. Bon, on peut s'imaginer que les auteurs n'ont pas écrit ça à la légère.
Non. Ils avaient une expérience pour
Ils avaient une expérience pour l'écrire. Et il y a beaucoup d'autres citations. Là, j'en ai sélectionné sous mes yeux quelques-unes, mais j'en ai des dizaines et des dizaines qui sont toutes plus belles les unes que les autres.
Mais parce que c'est commun à toute l'humanité,
Donc, bien sûr.
Forcément, alors, c'est une expérience commune.
C'est pas qu'on veut la souffrance, qu'on la désire et qu'on pense qu'elle est indispensable, mais il se trouve qu'elle est, j'allais dire qu'elle est livrée clé en main.
Oui. Avec notre vie. Notre venue au monde.
La femme, lorsqu'elle met au monde un enfant, c'est dans la douleur. L'enfant, quand il naît, c'est il y a aussi de la douleur.
Ah oui, puis il change de monde.
Son premier cri, c'est parce que l'air remplit ses poumons et ça fait mal.
Ouais.
Alors il crie. Il y a l'air aussi déjà qui passe, mais il crie aussi parce que ça m'a fait mal, ça m'a brusqué.
Mais il change d'un état à un autre.
C'est ça. Et l'enfant souffre pour apprendre. L'adolescent souffre parce que ses jambes s'étirent et grandissent. Ça fait mal la nuit.
Oui, les douleurs de croissance.
Les douleurs de croissance. Enfin, à tous les stades de la vie, on n'a pas besoin de la choisir. La souffrance est parfois là. Je dis parfois là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut l'intégrer. C'est ça la sagesse, c'est ça l'intelligence. Et ne pas en faire notre ennemi, mais notre ami.
Oui.
Alors ça, c'est un choix. Et chacun d'entre nous est libre de refuser de faire ce choix. C'est donc là encore du déni. Ou de faire le mauvais choix, ou alors de faire le bon choix, en présentant ses souffrances à Dieu et en disant, Seigneur, eh bien, que mes souffrances deviennent fécondes.
Oui.
Voilà. Et là, la vie s'approfondit. Et je dirais que, au travers de la souffrance, c'est la vie qui explose. Et dans le bon sens.
Et la vivre unie à Jésus, à sa croix, parce que c'est en union avec lui, il nous communique à ce moment-là son.
Bien sûr, il est passé par là, à l'avance.
La transformation.
Et c'était pas n'importe quelle souffrance, on en parlera, la croix.
Oui, bien sûr.
À l'époque, c'était comme la chaise électrique. C'était comme la chaise électrique.
C'était
maintenant.
La condamnation à mort des condamnés, de l'époque, c'était la croix.
Il n'y avait pas de pire condamnation que celle-là. C'était la plus élevée.
C'était d'ailleurs réservée surtout à tous ceux qui étaient...
Aux brigands.
Aux brigands, oui,
vraiment,
c'est ça.
Les pires, ceux qui étaient jugés les plus dangereux dans la société. Et Jésus a accepté
d'être parmi eux.
Cette malédiction injuste, puisque lui, il était parfait.
Mais pour nous justifier.
Alors, il a pris sur lui cette punition, si on veut, pour qu'on ne soit pas puni, pour qu'on souffre moins, pour qu'on reçoive la paix dans la souffrance et qu'on reçoive sa présence. Il a tout pris sur lui. C'est comme s'il y avait une voiture qui fonçait vers moi à 180 à l'heure et puis moi, je sais pas, je suis sourd, j'entends pas ou je vois pas cette voiture arriver. Et c'est comme si quelqu'un qui est à côté de moi, au dernier moment, me poussait au fossé, et j'aurais quelques égratignures, et prenait la voiture en plein corps, et elle meurt à ma place. C'est ce que Maximilien Kolbe avait fait à l'époque, prendre la place d'un condamné à mort.
Oui.
Et il y en a eu d'autres dans le temps qui ont fait cela. Mais là, Jésus-Christ, homme parfait, Dieu parfait, a accepté d'être jugé à notre place, condamné à mort, et banni de la société.
Et je pense à cette phrase de Claudel, Dieu n'a pas éliminé la souffrance, mais est venu l'emplir de sa présence.
Oui, hein. C'est ça, oui. Hein, c'est oui, ça, oui, c'est le remplir de sa présence.
Présence, hein, c'est ça. Donc, oui. Voilà, sa présence transforme quelque chose, on ne la vit pas de la même façon.
Ouais, c'est ça. Et quand on souffre vraiment beaucoup, je ne parle pas des petites souffrances qu'on peut avoir dans la journée, mais quand il y a des très grandes épreuves, finalement, la clé, c'est quoi ? C'est de ne pas en chercher à tout prix le sens,
oui.
Sinon on va se révolter. On va dire, mais tu me maltraites, Seigneur.
Ouais, c'est pas juste, c'est pas... C'est pourquoi,
on en discutait hors antenne tout à l'heure, mais de s'abandonner.
C'est ça.
Voilà, sans réfléchir. J'accepte, Seigneur, de passer par là. Je
comprends
pas,
oui.
Mais j'accepte de passer par là.
Toi, tu sais.
Parce que, dans le temps, toute souffrance vécue dans la présence de Dieu a produit des merveilles dans la vie des individus. Alors, j'accepte de passer par là. Et en effet... Dans ce cas-là, la souffrance nous burine, certes, mais elle nous rend plus forts.
Oui. Et on la vit dans une certaine paix.
On la vit dans une certaine paix qui surprend les gens.
Bien sûr. Bah oui, parce que
ça les surprend. Ils se disent mais comment il fait, comment elle fait. Bah oui, mais tout simplement, on a incorporé la présence de Dieu à la pâte. C'est le levain.
Ouais.
La présence de Dieu qui fait lever la pâte. S'il n'y a pas de levain, le gâteau. On ouvrira la porte du four, même après une heure de cuisson.
Mais il sera.
On va avoir une pantoufle, quoi, à la place d'un gâteau. Mm-hmm. Bon. Et s'il y a le levain.
Le gâteau va lever, justement.
Va lever.
La pâte va lever.
Après, on va le manger. Et Dieu est comme un levain qu'on peut incorporer dans notre souffrance, si nous le voulons bien. Voilà.
Si nous le voulons bien.
Oui.
Merci, pasteur Philippe Osnay. Renoncer à soi-même et porter chaque jour sa croix, c'est le thème ce soir. Comment donc la vivre ? On va le voir ensemble, progressivement. Bien sûr, nos auditeurs sont invités à nous rejoindre au 01 56 56 44 00. Nous écoutons, c'est la communauté de Thésée, un chant de Jacques Berthier, Père Crucem.
Radio Notre-Dame.
Pierre Crouchem, c'était la communauté de Thésée. Voilà. Donc ce soir avec le pasteur Philippe Osney, le thème de la soirée, renoncer à soi-même et porter chaque jour sa croix. Comment donc le vivre? Donc, je rappelle le livre hein, dont, qui en a beaucoup parlé dans le livre que vous avez écrit, pasteur Philippe Osney, « Ta souffrance peut devenir féconde », c'est aux éditions première partie. Alors, on évoquait des citations, puisque c'est toute l'humanité sait ce que c'est que souffrir, la souffrance. Bon, après, on la vit d'une façon ou d'une autre, mais beaucoup d'écrivains, évidemment, ont parlé de la souffrance. Hein.
Se sont exprimés à ce
Alors,
sujet.
Alors, on peut peut-être encore donner quelques citations.
Alors oui, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est celle d'un philosophe allemand, puisqu'on vient d'écouter un chant de Thésée qui était en allemand, je crois.
C'est celui d'après.
Trompé sur la liste. Oui. Bon, en tout cas, un philosophe allemand qui a dit ceci, la souffrance est un correctif qui met en lumière la leçon que nous n'aurions pas comprise par d'autres moyens et elle ne peut jamais être éliminée tant que cette leçon n'a pas été apprise.
Ah oui.
Voilà, c'est profond ça. Hein.
Ah oui, c'est ça.
C'est profond. Oui. Voilà, enfin, il y a beaucoup d'autres citations qui nous éclairent. Graham Greene hein, qui a dit ceci, la souffrance est encore pire dans le noir. Mm. On ne peut poser les yeux sur rien.
Eh oui.
Et c'est vrai.
Mais oui. Et justement, lorsqu'on n'est pas éclairé par la lumière du Christ...
Mais on est dans le noir.
On est dans le noir. Et alors là, la souffrance est... Et pire, elle n'a pas de sens.
Oui, c'est ça. Et oui. On voit plus rien. Oui. Enfin, une citation par rapport à l'attitude à avoir envers une personne qui souffre, c'est Yvon Rivard qui a dit ceci, « La souffrance d'autrui, même lorsqu'on connaît la cause, est une porte verrouillée de l'intérieur contre laquelle on ne peut que frapper discrètement pour que l'autre sache qu'il n'est pas seul.
Ah. »
Et ça, c'est vrai.
Eh oui. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas rejoindre l'autre, on ne peut pas nous rejoindre.
Mais ce n'est pas possible, et surtout, on ne peut pas lui donner la clé.
Mais non.
Si on commence à faire ça, on est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et on va faire du mal.
Bien sûr.
Ne t'inquiète pas, ta mère vient de décéder ou ton frère, ça ira mieux. Bon, ça,
évidemment.
C'est stupide. Voilà.
Mais être là, même dans le
système. On met sa main contre l'épaule de la personne, sans rien dire, on est présent. On veille avec elle. Mais elle comprend tout.
Mmh.
Elle se dit, voilà, ah, qu'est-ce que ça me fait du bien. Parce qu'un fardeau partagé est un demi-fardeau.
Bien sûr.
Hein, oui, devient un demi-fardeau. Et quand on souffre, on a besoin de ça. Mmh. On n'a pas besoin de parole.
Bien
on n'a pas besoin de morale.
Bien sûr.
On a besoin...
D'une présence silencieuse, aimante. Oui.
Et c'est la même chose au niveau spirituel. Quand on souffre personnellement, on a besoin de la présence de Dieu, c'est tout.
Oui, bien sûr.
Voilà, on n'aura pas d'explication sur le moment. Ça viendra après. Il y a même des souffrances dont on n'aura jamais le sens, la signification. Mais là-haut,
il y en a une.
Hein, je pense à des parents qui perdent leur enfant très jeune. Que dire? On va dire, Dieu a rappelé ton enfant, réjouis-toi, il est maintenant dans le paradis.
C'est sûrement pas ce qu'il faut.
C'est vraiment quelqu'un qui dirait ça, mais c'est... voilà, on peut le penser, je veux dire, bibliquement.
Mais quand on vit dans sa chair,
pleurer avec ceux qui pleurent.
Ben oui.
Voilà, alors ça c'est important, notre comportement vers ceux qui souffrent, d'être vraiment compatissant et d'être présent sur les lieux. Alors,
ça c'est donc des citations on peut dire, de la littérature ou de la philosophie.
Oui.
Mais, évidemment, ben, la souffrance, Jésus nous l'enseigne par sa vie, hein, toute sa vie et surtout la fin de sa vie, hein, la croix.
Mmh.
Hein, et alors, quelles sont par exemple les citations, des paroles dans la Bible qui expriment le mieux ce que on veut dire ce soir, c'est-à-dire renoncer à soi-même, porter chaque jour sa croix.
C'est Jésus qui a prononcé ces paroles.
Oui.
Et il a dit, par exemple, dans l'évangile de Luc, ça a été rapporté par Luc, chapitre 14, verset 27, il a dit ceci, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Ce n'est pas... je veux dire, Jésus n'a pas dit quiconque ne porte pas sa croix aura du mal à être mon disciple.
Non.
C'est pas ça qu'il a dit.
Non, ne peut pas.
Ne peut pas. C'est formel. C'est entier. Il ne peut pas.
Il ne peut pas.
C'est-à-dire que celui qui ne veut pas souffrir, qui n'accepte pas de souffrir, le chrétien qui n'accepte pas de souffrir, ne pourra pas être le disciple de Jésus. Il sera un ami lointain de Jésus. Et ça,
extérieur, un peu extérieur.
Ouais,
enfin bon,
extérieur.
Il n'y aura pas de communion profonde,
non,
forcément.
Non. Et alors, il y a un autre, d'autres paroles formelles de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Ça, c'est Luc qui rapporte ces paroles. Chapitre 9, verset 23. Alors, là encore, c'est... Bon, je ne vais pas dire que c'est lapidaire, mais c'est formel. Hein.
Ah oui, puis c'est...
C'est net. Si quelqu'un veut venir après moi, premièrement, qu'il renonce à lui-même. Deuxièmement, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et troisièmement, là, il pourra me suivre.
Oui.
Alors, il y a des conditions. Il y a des conditions. Il y en a qui disent, oh, mais tout le monde sera sauvé, Dieu est amour... C'est pas grave tout ça, réjouissons-nous.
On ira tous au paradis.
On ira tous au paradis, ça c'est Paul Naref. Alors voilà, ça c'est l'homme qui s'exprime sur Dieu et il se plante là, complètement. Il y a des conditions, mais pour tout d'ailleurs, Chantal.
Bah évidemment.
Il y a des conditions pour tout. Sauf à Paris ces jours-ci, à cause de la pollution, on peut voyager gratuitement.
Voilà.
Dans les transports en commun.
Alors, vous tombez bien, je veux dire, vous qui venez de Lyon.
Moi, je suis juste venu à cette période, 3 jours de pollution extrême. Et on voit la pollution, hein. On la voit dans Paris et on la sent.
Oui.
On la sent. Moi, j'ai eu du mal à respirer. Et alors, bon, là, la condition a été levée, mais quand on emprunte un transport en commun, il faut payer.
Ben, nous, on a notre passe Navigo, alors de toute façon, on l'a payé.
Il y a des consignes, voilà. Ouais. On va à la piscine, bon ben, il faut prendre une douche avant, je veux dire. Ouais. Et puis, il y a le, comment on met ses pieds, bon, je sais plus le nom, bon, voilà, il faut patauger là dans
ah oui.
De l'eau,
oui.
Et également. J'ai le nom sur le bout de la langue, mais c'est pas grave. C'est pas grave.
Oui, c'est ça. On n'a pas.
Je crois que c'est un pédiluve, il me semble que c'est ça.
Ah oui.
Je crois. Oui, il me semble que c'est ça.
Hein. Oui.
Ça me revient. Voilà. Alors bon, il y a des conditions pour tout. Alors, pour suivre Jésus, il y en a qui vont dire oui, mais alors, comment? Faut souffrir? Faut gémir? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais, nous avons besoin d'être préparés à la rencontre de Dieu. J'allais dire, dans mon langage à moi, d'être décalaminé.
Oui.
Il y a un décalaminage.
Comme les moteurs, enfin.
Oui. Et voilà. Alors, il faut accepter ça. Oui. Quand on est à l'école, on se tient tranquille sur son banc et on ne parle pas pendant que le professeur parle.
Oui, il y a
et
des.
Et on reste une heure assis. Il y a des conditions.
Eh oui.
Et le résultat, c'est quoi? Des années d'études, un diplôme, et au bout, s'il y a du travail. Et pas trop de chômage, il y a un boulot à la clé, qui peut être intéressant. Alors, la vie est faite de contraintes. Et pour suivre Jésus, il y a quelques contraintes, et notamment celle d'accepter d'être purifié par la souffrance. Transformé, éduqué par la souffrance. Hein. Alors, il y a des conditions, là. Le titre de l'émission, c'est « Renoncer à soi-même et porter chaque jour sa croix
oui. ».
Comment donc le vivre,
voilà.
Alors là... Chantal, on va donc être concret.
Mais oui, bien
et
sûr.
Et dire que,
parce que ça,
on va expliquer ce que c'est que de renoncer à soi-même et porter chaque jour sa croix. Et ensuite, on va avancer dans l'émission et dire comment le vivre chaque jour. Parce que c'est ça qui sera intéressant dans l'émission.
C'est le programme, de toute façon, que nous donne Jésus lui-même.
Hein. Voilà, il nous le donne.
Mais nous, on va voir ce que
alors
ça veut dire, comment le vivre. Voilà.
Parce qu'il faut arriver à le vivre. Il
ne
faut pas que ça reste seulement dans notre petit cerveau.
Non, c'est vraiment
cerveau.
Dans notre vie concrète de tous les jours. Hein, parce que...
C'est ça. Sinon, connaître l'évangile cérébralement, n'importe qui peut le faire. Mais le mettre en pratique, c'est pas n'importe qui peut le faire.
Et pourtant, c'est ça qui est essentiel pour vraiment. Si on le sait par cœur ou si on, ça sert à pas grand chose
en
fait.
Non.
Si on ne le vit pas.
Moi, je dis toujours que le diable connaît mieux la Bible que moi.
Ben, on le voit bien, les tentations de Jésus, tout cela.
Oui.
Il sait très bien.
Bien sûr. Alors donc la différence, c'est que le chrétien, lui, vit de l'intérieur. Les enseignements de Jésus, il passe à l'acte. Et ça, le diable ne peut pas le faire. Parce que le but du diable, c'est de, selon Jean 10:10, le voleur n'est venu que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est-à-dire Satan.
Ouais.
Trois buts dans son ministère.
Oui. Hein son ministère, vous dites ministère.
Oui.
Là, y a le oui. C'est son service.
Non, mais Satan.
Négatif, oui.
Dieu a un ministère, mais Satan, n'oublions pas qu'il était le premier ange de Dieu.
Mais oui.
Donc, il connaît les clés du ministère. Et il a un ministère, mais c'est le ministère pour détruire. Hein. Donc, égorger, détruire, dérober. Le voleur n'est venu que pour dérober. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure?
Égorger
et détruire. Bon, c'est pas un ami sympa.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Je suis pas l'ami de Satan, mais de Jésus, qui a toujours voulu
vous avez raison.
Me construire, me relever. Jamais de reproches, désobligeant. Toujours, allez, tu y arriveras, même si tu n'y es pas arrivé.
Encourageant.
Ça marchera. Et ce que tu peux pas faire, dit Dieu, mon fils l'a fait à la croix, pour toi, déjà. Il a porté. Déjà ces choses. Et donc appuie-toi sur lui. Alors c'est pour ça que j'aime Jésus. Alors, ben oui, il y a des conditions pour suivre Jésus, mais pour suivre Satan, parce qu'il n'y a que, y a que Dieu ou Satan, il y a deux mondes spirituels.
Oui, c'est ça, il n'y a pas...
Il n'y en a pas trois. Il n'y en a que deux.
De même, au moins,
de même
c'est
qu'il
plus simple que s'il y en avait un droit.
Les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas trois sortes de choses. On me dira qu'il y a entre les ténèbres et la lumière. Bon, oui, mais ça, c'est passager, c'est transitoire. Il y a les ténèbres et la lumière, la nuit et le jour. Il y a l'enfer et le paradis. Il y a Dieu et Satan. Il nous appartient de choisir notre allié, notre sauveur. Moi, j'ai choisi Jésus pour la vie entière.
C'est le bon choix, ça.
C'est le bon choix. Et je suis pas déçu. Ça fait maintenant 41 ans que j'ai choisi Jésus. Comme compagnon de route, comme ami fidèle, 41 ans. J'en ai vu des vertes et des pas mûres.
Oui, mais parce que le chemin n'est pas facile.
Le chemin n'est pas facile. Mais je préfère avoir souffert dans la voie de Jésus-Christ.
Que de souffrir de l'autre côté.
Oui, souffrir ou pas, parce que Satan nous donne le plaisir.
Au début.
Et à la fin, la mort éternelle.
Bah
oui. Dieu nous donne une vie de paix, de joie et d'amour dans la souffrance. Mais après, il y a quoi ? La délivrance totale et le paradis. Et la vie éternelle. Alors, je sais que c'est le bon choix. Et il y a des moments où il faut serrer les dents. Il faut, de toute manière, sur la terre, il y a des souffrances. Alors, je préfère les avoir en étant dans le camp de Jésus et à cause de Jésus, plutôt qu'à cause du diable et de ses démons.
Ça, c'est sûr. Mais encore, c'est pas évident pour tout le monde parce que
mais non, puis les gens pensent que Satan n'existe pas.
C'est ça,
ils se disent Dieu, on n'est pas sûr. Allez, allons-y, hein. Et puis alors, moi je vais parler d'eux, je vais dire mais je suis pas sûr non plus que tu t'appelles Georges, hein. Et pourquoi tu dis que tu t'appelles Evelyne? J'ai aucune preuve. Qu'est-ce que c'est que ce nom de famille que tu as là? Tu es sûr que tu t'appelles comme ça? Tu es sûr que tu habites bien là? Est-ce que cette maison t'appartient? Et cet argent que tu as, il est à toi? Non mais arrêtons avec le doute, avec la confusion, la théorie du genre, tout ça, on va pas en reparler. Hein, mais en ce moment, il y a une grande confusion sur la surface de la Terre. Grande confusion.
Mais oui, mais ça c'est l'adversaire de Dieu qui s'affiche.
Voilà, l'homme doit être la femme et la femme doit être l'homme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'homme et la femme sont égaux, mais ils sont différents. Vive l'homme et vive la femme.
Ben oui, chacun...
Ils sont égaux dans leurs différences. Alors, on veut maintenant une égalité en rognant les différences. Mais c'est quoi, ça?
Oui, je vois pas, oui.
Alors, moi, je vais me mettre une robe. Et puis, vous, Chantal, vous allez vous habiller en costume cravate. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce...
Costume trois pièces.
Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Non, mais en ce moment, qu'il y a dans notre société.
Oui.
Plus de repères moraux. Plus de repères spirituels. Le bien s'appelle le mal. Le mal s'appelle le bien. Mais dans quelle société on vit, comme dirait l'autre en plaisantant, dans quelle étagère?
Hein? Enfin, ça, c'est signé quand même. Hein.
Oui, c'est... voilà. Alors, non, mais c'est important de dire qu'on est vraiment au siècle de la confusion.
Ouais.
Alors, faisons attention.
Alors là, on part à un autre siècle avec Jean-Sébastien Bach. C'est l'orchestre royal d'Amsterdam. Mais oui, le voilà, la passion selon Saint-Jean. Alors, vous connaissez l'allemand puisque vous êtes dans l'Est, originaire de l'Est de la France. Alors, je vais le dire. Ich folge dir gleich voll.
Non. Chantal.
Allez-y.
Non, mais on plaisante en ce moment. Oui. On est en train de plaisanter dans le studio. Ich folge dir gleich falls.
Oh, c'est mieux quand même. Voilà. Là, on sent
l'accent.
Oui. Mais oui. Alors, ça veut dire...
Gleich falls, enfin bon, j'ai pas la traduction exacte, mais ça veut dire je te suis, moi je traduirais comme ça, je te suis de toute façon, quoi.
Oui.
Hein, de toute façon, c'est-à-dire je serai toujours là, quoi.
Voilà, c'est tout à fait en concordance avec notre thème de ce soir. On écoute Jean-Sébastien Bach, la passion, selon Saint-Jean.
Radio Notre-Dame.
Donc, c'était un extrait de la Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach. Oui, donc ce soir nous parlons de ce de la croix, hein, de la souffrance, renoncer à soi-même et porter chaque jour sa croix.
Alors ce sont deux étapes, Chantal.
Oui.
Et,
la troisième, c'est suivre Jésus.
Voilà, trois étapes en quelque sorte.
Oui. Alors renoncer justement à soi-même.
Alors voilà, la première étape, c'est
oui.
ça.
Alors
c'est
qu'est-ce que
oui. D'abord renoncer à soi-même, parce qu'on ne peut pas porter chaque jour sa croix sans avoir d'abord renoncé à soi-même.
Renoncer
à soi-même, c'est donc un acte de soumission pour accepter d'être dépouillé de soi-même, d'être purifié de soi-même, de manière à revêtir autre chose.
Voilà.
Et cette autre chose, ça va être la croix. Alors pas la croix de Jésus qui vit son agonie et qui monte à Golgotha.
C'est
pas ça.
Bien sûr. Oui. C'est important de tout.
Voilà. Là, c'est une image. Oui. La croix, c'est l'image de la souffrance, de quelque chose qu'on porte. Hein. Donc alors trois étapes. D'abord renoncer à soi-même. Et dans mon livre, j'en parle, j'ai beaucoup détaillé ça. Qu'est-ce que c'est que le renoncement? Le fait d'accepter de diminuer devant Dieu, hein, de donner notre orgueil, notre égoïsme, notre soif de pouvoir, notre moi, hein,
le côté
et le péché, c'est quoi le péché? C'est vivre séparé de Dieu, c'est-à-dire déifier son moi, tandis que la sainteté, c'est déifier Dieu en quelque sorte.
C'est ça. Donc comme dit Jean-Baptiste, diminuer pour qu'il grandisse.
Alors c'est ça. À soi-même, c'est faire tout ce travail quotidien. On se lève le matin, par exemple, et on dit, Seigneur, j'accepte aujourd'hui de ne pas faire certaines choses. Certaines choses qui pourraient t'affliger, te compromettre ta gloire au travers de moi, compromettre ton royaume. Donc j'accepte peut-être de moins pécher, justement. J'accepte, au lieu de prendre mes décisions seules, je vais les prendre avec toi et toi tu vas m'indiquer ce que je dois faire. Hein. Voilà. Alors ce travail de renoncement, j'allais dire que c'est comme si on creusait à l'intérieur de nous quelque chose. Hein. On creuse quelque chose.
On est trop plein de soi-même, on peut dire, et donc on creuse, on élimine.
On élimine. Et je crois que c'est saint Augustin qui dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. En forme de Dieu, un vide en forme de Dieu. Alors ce vide, on le remplit, bien sûr, de quoi? De télévision, de vie relationnelle par 10 coups de fil, 20 coups de fil, 30 coups de fil dans la journée, de cinéma, de télé, de tout. Hein? Mm-hmm. Et on laisse pas de temps pour Dieu. Alors le renoncement, c'est ça, c'est arriver à déconnecter son téléphone, c'est arriver à éteindre sa télévision et à prendre sa Bible. Et puis, arriver donc à... Pardon, je vais juste prendre un petit peu d'eau.
Oui, un petit peu d'eau.
Et ça fait du bien dans ce cas-là.
Là, pour éclaircir un peu.
Voilà, la voix s'éclaircit.
Oui.
Alors, on accepte cela. Pourquoi? Eh bien, pour que Dieu descende par sa présence et remplisse notre vide. Au lieu d'utiliser des trucs éphémères, des trucs de pacotille.
Qui sont des idoles.
Qui sont des idoles. Il y en a qui sont accros à la télé, il y en a qui sont accros... Moi, je vois les gens dans le métro. Hein.
Le portable.
C'est le portable.
Et aussi,
partout maintenant.
Oui, ah oui, ça...
Sur le trottoir, les gens parlent tout seuls.
Ah oui, c'est...
Parlent tout seuls. Hein, parce qu'ils ont le micro.
Oui. Ça fait un peu...
Dans le métro, tout le monde... les jeux vidéo dans les trains, les... Voilà.
Alors, qu'est-ce qui est si passionnant là-dedans?
On remplit tout par des choses qui, certes, peuvent être intéressantes, pourquoi pas?
Oui.
Mais nous font oublier l'essentiel.
Bah oui, c'est ça.
Alors, renoncer à soi-même, c'est justement, tout à coup, arriver à arrêter momentanément ces choses-là pour s'approfondir et laisser Dieu nous remplir.
Notre société actuelle, elle est pleine de, elle multiplie
Bien sûr.
Ces occasions.
Bien sûr. Bien sûr.
Et alors, puis, bien sûr, la technique, la technologie, elle est importante, elle permet des choses, de belles choses, hein, quand elle est bien utilisée, mais elle peut remplir aussi le vide.
Alors voilà, et là elle devient nocive. Oui. Elle devient nocive. Alors donc...
Donc renoncer à soi-même, c'est...
Oui. Une opération de creusement, de voilà.
Et c'est vrai que le temps qui précède Pâques, le temps du carême, 40 jours Jésus au désert.
Hein, oui, mais c'est ça, c'est un temps de purification.
C'est un temps de purification pour creuser, pour accueillir pleinement la résurrection, enfin une autre vie, la vraie vie. Quoi.
C'est ça. Donc chacun sait qu'une bouteille pleine, on ne peut pas la remplir. Hein, donc on a besoin de, pour être rempli de Dieu, eh ben de vider une partie du reste,
oui.
Pas tout, mais une partie du reste.
Oui.
Alors renoncer à soi-même, c'est ça, c'est Seigneur, je passerai peut-être un peu moins de temps devant la télé aujourd'hui, peut-être que je vais moins manger ou jeûner, peut-être que, etc. Mais en tout cas, je vais t'accueillir, les bras ouverts. Voilà. Et porter sa croix, c'est ça. Alors ensuite, on a renoncé à nous-mêmes, et c'est là que la volonté de Dieu peut s'imprimer dans notre vie.
Ouais.
Elle peut vraiment nous remplir.
Sinon, on est empli de soi-même, on est forcément dans notre volonté.
Ben oui, puis on n'est plus en relation avec Dieu. Hein. C'est comme si on avait débranché. Voilà, tandis que quand on a renoncé à nous-mêmes, pas par de la mortification, comme on l'avait dit, le dolorisme et tout ça, non. Mais simplement en acceptant de ne pas faire certaines choses, ça permet à Dieu de faire certaines autres en nous.
Oui.
Et c'est ça la croix. La croix, c'est quelque chose d'extérieur. Le renoncement, c'est quelque chose d'intérieur.
Mm-hmm.
Hein? La croix, c'est quelque chose d'extérieur. Porter sa croix, c'est la mettre sur son épaule. Et la croix, c'est, Seigneur, voilà, c'est difficile pour moi, mais je vais faire ça, ce que tu me dis.
Mais pas sans toi, avec toi.
Avec toi.
En communion, en alliance avec toi.
Voilà.
Oui.
Et c'est là que on va se mettre à aider quelqu'un qui est dans la souffrance. On va se mettre à. Il y a tellement de choses à faire. Oui. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui aide l'armée du salut. Ils font des soupes de nuit.
Et, oui.
Et puis tous ceux qui sont malheureux dans les rues, qui sont pauvres, les clochards, les sans-abri, sans logis, ils vont venir manger une bonne soupe. En hiver, etc. Et ils donnent une partie de leur temps. Ça, c'est porter sa croix.
Mais oui.
C'est-à-dire, j'ai accepté de renoncer à cette heure de loisir que je reprise, et je la donne pour les autres. Voilà, je porte ma croix. C'est pas facile pour moi au début, mais quel plaisir d'aider ces sans-abri.
Et la joie alors du Seigneur, la joie,
mais bien
joie profonde
sûr.
Qui n'est pas de ce monde, enfin, c'est d'un autre ordre.
Mais oui, et Jésus le disait, j'étais en prison. Et vous m'avez visité.
Oui.
J'étais nu, vous m'avez revêtu, etc., etc. Et voilà. Alors, arriver à penser aux autres, à penser à Dieu et à penser aux autres, mais que ça reste pas seulement dans le domaine de la pensée, mais que ça passe par des actes. Hein. Alors, on peut faire un. Je le dis souvent, les restos du cœur. Bon ben, voilà, la banque alimentaire. Tu peux pas toi-même. Aller acheter de la nourriture ou quoi, tu as un petit peu d'argent de côté, envoie un petit don. C'est aussi ça, aider ses frères.
Bien sûr.
Hein,
oui.
Et cet argent, avec cet argent, on va acheter des palettes de sucre, des palettes de pâtes, de riz, et ça va être redistribué. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas quand tu seras dans ton cercueil.
Bien
ça
sûr.
Sera trop tard.
Bien sûr.
Alors, donc Jésus est intelligent dans son enseignement. Hein. Il préconise que nous renoncions à des choses pour en revêtir d'autres. Donc, porter sa croix, c'est revêtir la volonté de Dieu. Hein. Alors, que veut Dieu pour moi? Que veut Dieu pour moi?
Parce qu'il a pour chacun un plan, un projet.
Un plan.
Et pas à pas aussi. Hein,
voilà, nous avons tous des aptitudes. Tous des aptitudes. Certains peuvent facilement jouer d'un instrument de musique. Eh ben, on va les retrouver aux offices, à l'église. C'est agréable, c'est beau. D'autres savent chanter, d'autres savent balayer. Hein. D'autres, j'étais souvent en Polynésie, ils savent faire des couronnes de fleurs.
Ah
beaucoup
oui.
de femmes prennent une heure de temps pour tresser une couronne de ouais. fleurs de tiare.
Oui.
C'est magnifique. Ah. Et moi, je les vois faire. Ce sont des professionnels. Elles deviennent des professionnels. En Bretagne, hein, eh ben, c'est quoi? C'est le comment, arriver à faire de la broderie.
Ah oui, bien sûr.
Hein. Et puis, ça s'appelle, je crois, les bigoudens.
Les coiffes, là.
Les coiffes. Oui. Les belles coiffes, etc.
Selon les régions, justement, elles sont très différentes.
Voilà. Alors, on a tous reçu des dons, des capacités. Alors, faut les mettre au service de Dieu. Voilà. Hein. Et certains savent faire la cuisine, hommes ou femmes. S'il y a une retraite spirituelle, ben, ils se portent volontaires pour faire la cuisine. Ils travaillent ensemble. Et pendant ce temps-là, eh ben, il y en a plein qui peuvent écouter la parole de Dieu, assister à des réunions, manger à l'heure du repas et faire des retraites. Alors, tout ça, c'est un ensemble.
Mmh.
Hein? Et chacun de nous, nous avons quelque chose à faire. Et la question que je te pose à toi qui m'écoutes ce soir, je vais être un peu brutal. Qu'as-tu donné au Christ? Qu'as-tu donné à Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu et avec Dieu? Hein? Est-ce que tes capacités, tu les as mises au service de Dieu?
C'est ça, c'est un choix. Et c'est à ce moment-là, on renonce à soi-même, parce qu'au lieu de les mettre à son service, on les met aussi.
Alors c'est ça le renoncement. Mmh. Alors il y en a qui disent, oui, mais je sais pas comment faire, je sais pas par quel bout commencer. Ah bon? Ben, quand tu te brosses les dents, tu commences par quoi? Ben, tu prends ta brosse à dents, main gauche, ton tube de dentifrice, main droite. T'enlèves le bouchon, c'est très, très difficile. Hein. Tu appuies sur le tube, pas trop, parce que ça va faire pssst, et t'en auras plein les yeux. Puis tu mets un petit peu de dentifrice sur la brosse, et puis tu te brosses les dents.
Voilà, chaque opération, hein, pour marcher, après l'autre.
Il faut mettre un pas après l'autre. Il faut bouger, il faut se lever, et puis voilà. Alors, tout
et c'est une chose après l'autre, ça s'enchaîne comme ça. Il ne faut pas vouloir...
Voilà, alors, donc, la première chose à faire, c'est Seigneur, voilà, dans ce domaine-là, j'ai des dons, j'ai des aptitudes. Bah, Seigneur, je te les donne à toi d'abord. Voilà, tu les consacres à Dieu d'abord. Mm. Et Dieu voit ce que tu lui consacres et il ne va pas tarder à t'envoyer les bonnes personnes avec qui tu vas pouvoir travailler pour la gloire de Dieu.
Ouais. Donc voilà, c'est simple.
Mais c'est simple finalement.
Oui.
C'est ça qui construit le monde. Tous ces bénévoles, tous ces gens qui travaillent pour leur prochain, c'est magnifique.
Et c'est ça qui tient le monde. Hein.
Mais ça tient le monde, c'est la fraternité.
Oui.
On vit dans un pays qui a comme symbole liberté, égalité,
fraternité.
Hein, faut pas que ça soit seulement des mots. Et nous, les chrétiens, ben, il nous faut utiliser justement cette occasion rêvée pour servir notre pays, servir l'Église, servir Jésus-Christ, servir les pauvres, les malades, visiter ceux qui sont à l'hôpital, visiter nos amis, les détenus. Je dis nos amis, parce que ça pourrait être toi qui es en prison ce soir. Tout le monde peut y aller.
Bien sûr.
Alors on dit les détenus. Quoi les détenus? Bon, voilà. Moi je dis qu'il y a autant de gens qui ont fait des casses ou des conneries à l'extérieur des prisons qu'à l'intérieur. Hein? Il y en a autant.
Vous avez été aumônier de prison.
Oui, donc, oui. Il y en a autant. Alors ben voilà, aidons-nous les uns les autres.
Un grand merci, pasteur Philippe Osenay. Donc ce soir, le thème de réflexion, de partage, renoncer à soi-même et porter chaque jour sa croix. Comment donc le vivre? Eh bien, pas à pas, nous voyons comment vivre cela. 01 56 2 fois 4400 pour nous rejoindre.
Radio Notre-Dame. Mission. Bonjour, c'est Faustine Fayette. Retrouvez-moi tous les samedis matins à partir de 10h dans l'émission Mission pour découvrir les initiatives des jeunes chrétiens, des étudiants et jeunes pros en Ile-de-France. Mission avec Faustine Fayette, tous les samedis à 10h05 sur Radio Notre-Dame. Chaque semaine, du lundi au vendredi, Christine Pellistrandi nous éclaire sur le sens des mots. Le sens des mots avec Christine Pellistrandi. C'est du lundi au vendredi à 6h33 sur Radio Notre-Dame. Pour nous écouter, pour nous réécouter, rendez-vous sur le www.radionotredame.com. Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
écoute dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Ce soir, en compagnie du pasteur Philippe Osnay, qui est donc aumônier et écoutant de l'association Oser en parler, ancien aumônier de prison, et qui exerce un ministère itinérant, particulièrement auprès des personnes en souffrance. La souffrance, nous en parlons ce soir à travers le thème « Renoncer à soi-même et porter chaque jour sa croix ». Comment donc le vivre ? Je rappelle que dans le livre « Ta souffrance peut devenir féconde », vous avez parlé de, bien sûr, de ce thème. Et c'est aux éditions Première Partie. Alors je crois que nous avons en ligne, c'est Christian Michel qui est en ligne. Bonsoir Christian Michel.
Bonsoir Chantal, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir pasteur Philippe Osnay.
Bonsoir.
Votre sujet ce soir est très passionnant, qui doit intéresser beaucoup d'auditeurs de Radio Notre-Dame.
Mmh. Et de la COFRAC aussi. Et puis de la COFRAC, la communauté francophone des radios chrétiennes. Voilà, c'est très large.
Et puis je crois que nous sommes tous des blessés de la vie. Des handicapés, et donc cette souffrance, elle fait partie de notre vie, de notre quotidien, qu'elle soit physique ou morale. Hein. Oui. Alors ce soir, comme vous avez parlé tout à l'heure du père Maximilien Kolb, oui. Donc j'ai un petit poème que j'ai écrit il y a quelques années.
Et que, parce que Christian Michel écrit beaucoup de poèmes, poèmes, oui.
Ah, vous me connaissez.
Voilà, sur l'abbé Pierre, vous en avez écrit, entre autres.
Et oui, avec le père Guy Gilbert. Merci à vous. Alors voilà, cela s'intitule « Une lumière pour l'éternité ». Petit garçon de notre chère Pologne, aujourd'hui encore ton nom résonne. Tu as choisi l'humilité de la Vierge Immaculée. Tu viens de décider « Je veux être prêtre ». Alors tu vas préparer la terre en creusant le sillon. Tu vas faire pousser de belles âmes, nourries de compassion. L'accalmie sera de courte durée. Voilà qu'au loin l'orage gronde. Tu comprendras alors que ta mission est d'importance. Il faut tous ensemble nous unir dans la prière pour essayer de comprendre pourquoi la terre tremble de peur sous le pas cadencé des bottes ferrées jusqu'à battre nos fronts et nos cœurs épousés. Le loup hurle et la meute se déchaîne contre ta résistance et ceux qui restent fidèles à l'image du Père qui donna son Fils au monde. Toi aussi tu vas donner ta vie à la cause des bannis. Humilié, bousculé, frappé, tu vas résister à l'infamie, à la violence des hommes qui ne respectent pas la vie. Malmené, injurié, on va te jeter dans un camp, voyage pour l'oubli. Et là, tu vas connaître la faim, l'humiliation et le froid. Cette mort lente qui tue l'homme, mais pas l'espoir en soi. À chaque seconde, à chaque minute, tu vas prier pour tous ceux qui ont soif de vérité. D'espérance en la vie pour renaître à la liberté. Cette chère liberté que tu vas payer très cher pour avoir osé aimer. Tu vas prendre la place d'un homme qui implore, qui pleure, un père de famille qui ne veut point croire en son heure dernière. Te voilà enchaîné à tes frères de peine. Enfermé dans un cachot humide, tu vas réveiller l'amour. Pour Jésus et Marie, tu donnes l'espérance à tous ceux qui ne croyaient. Petit frère franciscain, ta prière se communiqua à tous en s'amplifiant, et l'on peut entendre alors s'élever de ses cellules froides des chants. Gloire au Rédempteur qui donna lui aussi sa vie en versant son sang. Pendant des jours et des jours, ces hommes dans le noir et l'indifférence resteront forts et confiants auprès du petit frère qui fait partager jusqu'à cette heure dernière l'espérance, où les voix s'éteignent une à une, où les corps s'affaissent, et dans un dernier murmure, je vous salue Marie. Des hommes en armes et vociférants font leur entrée dans la cellule. Ils sont pétrifiés devant cet homme agenouillé et invoquant le Père. Il attend avec ses frères de misère la délivrance pour la lumière. On injecte le poison, la dose mortelle sur des corps agonisants. Puis vient le tour du père Kolb, lui qui réconforta jusqu'à l'épuisement. Toutes ces petites âmes qui demain deviendront pour toute l'humanité un exemple de courage face à la perversité maquillée et sublimée. Un frère, un père, a rendu la lumière à la plus totale obscurité. Il s'appelle Kolb, un enfant de Pologne, un petit franciscain.
C'est magnifique.
C'est très beau.
Vous êtes, oui.
Merci à vous.
Le Seigneur vous a donné ce don.
Et voilà. Oui, j'aime beaucoup. Ouais. Je pense toujours à ceux qui souffrent, à ceux qui sont bien souvent très 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 près de nous, et que nous connaissons pas malheureusement, mais qui ont besoin de notre réconfort, de nos prières, parce que je crois en la force de la prière. Oui. C'est très important, je crois, de prier.
Rappelons-le, le Père Kolb a pris la place, je crois, d'un père de famille qui, dans un camp en Allemagne, devait être tué. Et il a dit aux Allemands, mais écoutez, moi je prends sa place, lui il est marié, il a des enfants, je prends sa place, moi je suis célibataire. Et il a donné sa vie. Et on en parle encore.
Oui, on en parle encore. Il faut que la jeunesse connaisse ces grands hommes. Parce que pour moi, ce sont de grands hommes.
Bien sûr.
Ah oui, parce qu'ils méritent.
Bien sûr, donner sa vie, c'est quand même... Quand on donne sa vie, on donne tout.
Ce sont des exemples.
C'est admirable. Et qu'on soit croyant ou incroyant ne change rien. Ce sont des hommes qui ont fait des actes exceptionnels.
Et qui
mérite notre admiration. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À vous surtout pour votre de vous entendre et de t'avoir choisi ce thème, parce que vraiment c'est super. Et je remercie Chantal, bien entendu, parce que vraiment il y a des émissions qui me captivent et j'écoute cela avec beaucoup de plaisir.
Merci de ce partage, Christian Michel.
Ah oui,
merci.
C'est un partage.
Tout à fait.
Bonne soirée.
Au revoir.
Voilà, c'est beau. C'est aussi de donner. Christian Michel a ce don.
Et
le partage avec tous nos auditeurs.
C'est un exemple. C'est magnifique. Alors, Jésus avait dit ceci à ses disciples : il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour.
Oui.
Et si on veut aimer, il nous faut donner. Rappelons-le. Il nous faut donner. Donner quelque chose, mais pas donner quelque chose de facile, donner quelque chose qui nous coûte. Sinon, c'est pas un don. C'est un transfert, simplement.
On renonce pas.
Donc, la première chose, c'est de donner notre vie à Dieu. Ça, c'est le plus important, puisque les deux commandements que Jésus a institués en commençant la période néo-testamentaire, c'est donc que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour cela que c'est Jean, dans une épître, il dit « Celui qui n'aime pas son frère est un menteur. Hein, » C'est un menteur.
Qui dit qu'il aime Dieu, qu'il n'aime pas son frère.
Oui, c'est ça, qu'il aime Dieu, qu'il n'aime pas son frère est un menteur.
Oui, les deux vont ensemble.
Mais pour aimer quelqu'un d'autre, il faut s'aimer soi-même aussi. Alors, ça se complique pour certaines personnes, celles qui ne s'aiment pas. Elles ont du mal à aimer les autres puisqu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Enfin, ça c'est on en fera une émission peut-être un jour. Voilà. Alors donc on parlait de ces enseignements de Jésus qui nous dit que si quelqu'un veut le suivre,
qu'il renonce.
Voilà,
c'est la première partie.
Voilà,
hein,
le
renoncer
programme,
à soi-même.
C'est renoncer à soi-même.
Oui.
Et la deuxième
partie,
c'est ça. Et la deuxième partie, c'est se charger de la croix de Jésus. Alors, par exemple, Maximilien Kolbe s'est chargé de la croix de Jésus. Il a renoncé à lui-même d'abord. En disant, tant pis, ma vie est foutue.
Puis jusqu'au bout, il a renoncé à sa vie, oui.
Voilà.
Celui qui perd sa vie.
Je vais mourir. La retrouvera. Et il a porté sa croix. Donc, c'était quoi? Je m'avance. L'autre vivra, et c'est moi qui vais mourir. Voilà. Et ça, c'est... Voilà, que dire devant ça? On ne peut que faire silence. Hein, j'aurais pas eu ce courage.
Même ces bourreaux ont dû...
Ils ont dû être réellement
travaillés. On ne sait pas ce que ça fait au fil du temps dans leur âme.
Bien sûr.
Quel témoignage.
Et ça me fait penser aussi au témoignage de Corrie ten Boom, qui est moins connu chez mes amis catholiques. C'était une femme protestante qui a vécu aussi pendant la guerre des atrocités. Et elle a eu l'occasion de reconnaître son bourreau après la période de guerre. Elle l'a reconnu à table.
Ah oui.
Il mangeait à la même table qu'elle dans une maison où il y avait beaucoup de gens qui mangeaient ensemble.
Donc après, bien après.
Bien après. Elle l'a reconnu. Et là, au début, elle avait de la haine. Oh. Et elle a travaillé tout ça dans son cœur. Voilà. Et elle disait, je crois, l'important, c'est d'être au centre de la volonté de Dieu. Au centre
de la volonté de Dieu. De Dieu. Oui, oui. Voilà, Seigneur, que veux-tu, là, dans cette situation?
Et je crois que c'est cette année qu'on a célébré, je sais plus quel
anniversaire
de sa mort, et où on en a beaucoup parlé dans les milieux protestants. Voilà. Il y a des gens dans tous les milieux qui donnent leur vie, ils sont admirables. Même dans le milieu des incroyants, hein, il y a des gens admirables. Il faut savoir le reconnaître. Et
Dieu parle dans le cœur de chacun, qu'on le sache ou pas.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors voilà le programme, donc alors, si quelqu'un veut suivre Jésus...
Oui, hein, qu'il renonce à lui-même.
Voilà, et j'avais même, je cherche là sur ma feuille, j'avais même... oui voilà, c'est Matthieu qui le rapporte au chapitre 10 et au verset 38. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Là encore, c'est quelque chose hein, de...
Ah oui.
C'est tranché, oui. Hein. N'est pas digne de moi. Hein? Autrement dit, si tu es chrétien, tu ne renonces pas à toi-même, tu ne prends pas ta croix chaque jour, et tu ne suis pas Jésus.
Tu n'es pas digne de lui.
Tu n'es pas digne de lui. Alors, il faut bien le prendre, il faut le prendre comme un avertissement.
Oui. Hein? C'est exigeant. Hein?
C'est exigeant. Et c'est en cela que j'aime bien, moi, les enseignements de Jésus, parce qu'ils sont clairs. Ils sont clairs.
Oui.
C'est précis. Et Jésus dira même que, donc, étroite est la porte qui mène à la vie, mais large est le chemin et la porte qui mène à la perdition. Il est dit que peu seront sauvés,
oui.
Malheureusement. Il y en a peu qui prennent cette porte étroite. Et on peut la prendre en se baissant.
Donc l'humilité, hein, c'est...
Voilà, l'humilité. Alors tout ça, moi quand je vois des jeunes, par exemple, dans des rassemblements, qui veulent suivre Jésus, ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans.
Ils sont pleins de cette ferveur.
Voilà, et déjà, ils veulent donner leur vie, ils se mettent à genoux. Je trouve ça admirable.
Mais il y a en même temps cet élan de l'absolu de la jeunesse.
Oui, mais quand on est jeune comme ça, on a envie de vivre d'abord, de prendre du plaisir.
Oui.
Et eux ont accepté de renoncer même à ça. Le plaisir du jeune adulte qui veut d'abord jouir de la vie.
On peut dire qu'ils ont mis leur passion dans la passion de Jésus, pas dans les passions du monde.
C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est magnifique. Quand je les vois, ces jeunes, je les vois à genoux dans des réunions que je fais ou que d'autres font, ils pleurent. Je trouve ça absolument magnifique. Ça m'encourage personnellement. Elle est belle, notre jeunesse.
Je comprends.
Et la génération là actuelle...
qui se lève là où
elle est très belle.
Oui.
Elle est très très belle. Et c'est une génération vraiment qui en veut. Elle en veut. Et elle est prête au sacrifice. Donc on peut rendre grâce à Dieu qui a répondu à beaucoup de prières.
Hein. Je comprends. Oui. Oui. Et c'est dans les moments justement où on a l'impression que le monde est dans une impasse. Hein,
que là, le miracle va surgir.
Oui, c'est ça.
Et là, il est à la porte.
Oui.
Donc, réjouissons-nous de toute cette belle jeunesse qui est prête à servir Dieu et à être un témoignage pour le monde dont certains pensent qu'il est perdu, mais il ne l'est pas du tout, perdu. Voilà. Alors, j'ai mis dans mon livre cette phrase, « Le vase doit pouvoir rester vide ». De ma vieille nature, C'est le rôle du renoncement pour pouvoir être rempli de Jésus en permanence, et c'est le rôle de la croix.
Il y a, voilà, il y a les deux étapes.
Il y a donc deux étapes. Mmh. Et donc là, il nous faut bien comprendre ces enseignements de Jésus pour pouvoir justement les mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Mmh. Sinon, ça reste de la théorie.
Alors, donc, ce renoncement, c'est se dépouiller.
Se dépouiller pour se revêtir ensuite.
Pour se revêtir ensuite.
C'est comme si on changeait de vêtements.
Oui. Et au baptême, on dit, vous avez revêtu le Christ.
C'est ça. Le baptême, c'est un ensevelissement.
Oui.
On est enseveli.
Dans l'eau.
Dans l'eau. Ouais. Et pour se relever en Christ. Et on a revêtu le Christ. Hein. Voilà. Alors donc, il y a beaucoup d'images.
Et c'est cela que le chrétien va avoir à vivre toute sa vie, finalement.
Oui.
Hein,
oui,
de cet acte initial,
oui,
qui va se déployer,
oui,
mais auquel il va collaborer pleinement, adhérer. C'est un choix, parce que
absolument,
voilà,
absolument, c'est pas fait une fois pour toutes.
Non.
C'est pour ça que Jésus a dit chaque jour.
Ouais.
Hein, oui. C'est deux mots importants.
Ouais. Chaque jour.
Celui qui ne prend pas chaque jour.
C'est à chaque fois, c'est à remettre sur le métier. Enfin,
c'est
pas une fois pour toutes.
C'est pas une fois pour toutes.
Ah oui, parce que la vie, c'est à chaque fois, enfin à chaque.
Oui, chaque journée est différente.
Ouais, ouais.
Il y a d'autres personnes, d'autres événements, et c'est un perpétuel recommencement. Mmh. Voilà. Et c'est une école. On apprend beaucoup si on veut bien accepter de passer par là.
Et alors, donc, l'enseignement va venir par les événements, par les rencontres d'autres personnes.
Oui.
Voilà. C'est...
Oui, oui.
Et ça, c'est mis sur notre route par le Seigneur. Et
bien
donc,
sûr.
C'est savoir que même si on comprend pas, ou c'est lui qui l'a mis pour notre...
C'est lui.
Lui sait pourquoi.
Il sait pourquoi. Mmh. Il sait pourquoi. Et Jésus, finalement, il est venu pour mourir. Il est venu à la vie sur cette terre pour mourir. Moi, je trouve ça admirable. Si j'avais su, moi, à l'âge de 20 ans, que je mourrais à l'âge de 33 ans, je ne sais pas si j'aurais eu la pêche. Et Jésus le savait. Il l'avait dit à l'âge de 30 ans, quand il enseignait. Il avait dit, il faudra que le Fils de Dieu aille, monte à Jérusalem.
Oui. Lui, il le dit, mais...
Qu'il soit livré.
Et ses disciples, les apôtres, ne voulaient pas. Hein.
Ils n'y croyaient pas.
Non, jamais. On voit bien Pierre, sa réaction. Hein.
Oui, il se rebelle. Il se rebelle. Alors, acceptons dans nos vies de perdre par moments. Hein, le chrétien qui ne perd pas certaines choses ne retrouvera rien après.
Bien sûr.
Donc on est là aussi pour perdre. Mm. Non pas pour perdre inutilement. Hein. Non. Mais
c'est redonner, autrement transformer.
Voilà, on doit y perdre quelque part. Sinon, ça veut dire qu'on n'a pas fait de sacrifice. Mm. Alors si on y perd, ne restons pas avec un goût amer, avec un goût... comment un arrière-goût d'injustice, hein. Mais sachons que c'est un appel également. Nous sommes appelés à cela,
hein,
appelés à cela, appelés à perdre pour gagner. Tandis que Satan, à l'opposé, nous
propose de gagner tout de suite,
mais pour perdre
facilement,
ensuite, pour perdre.
Pour perdre.
Et ensuite. Ça, il ne le dit pas.
Ben non.
Il dit pas, tandis que Jésus le dit à l'avance. Vous allez perdre pour gagner.
Mm-hmm.
Satan dit, vous allez gagner.
Il ne dit pas la suite.
Il ne dit pas la suite. Et c'est là où il faut faire attention. Et beaucoup peuvent se laisser piéger.
Ben, ça a été dès d'emblée, hein, dans la Genèse.
C'est ça.
Hein, c'est ça qui a attiré.
Alors, il y en a peut-être parmi nos amis auditeurs, auditrices, qui donc ont ce goût amer. Hein.
Mm.
Dans quelques instants, on va en parler.
Oui. Donc je rappelle aussi le téléphone 01 56 56 44 00. Renoncer à soi-même et porter chaque jour sa croix. Comment donc le vivre ? C'est notre sujet de partage ce soir, et de réflexion et de partage. On se retrouve dans quelques instants.
La Bible, pas à pas.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne. Que dirais-tu de m'accompagner chaque semaine, pas à pas, sur le chemin de la Bible ?
Ok. Mais pourquoi faire ?
Pour y ramasser des petits cailloux blancs. L'idée, c'est de s'arrêter à chaque symbole attaché à un personnage biblique.
Ah, comme la colombe de Noé ou le buisson ardent de Moïse.
Ou même les lions du prophète Daniel.
Et tu nous aideras ainsi à comprendre les Écritures.
C'est ça.
La Bible pas à pas avec Jocelyne et Étienne Tarnot. Tous les dimanches à 10h30 sur Radio Notre-Dame. Le monde vu de Rome, c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame.
8h30, 18h.
Le journal de Radio Vatican.
En Israël, le mur de séparation fait toujours débat.
19h.
Le magazine.
Ce mercredi, le pape a débuté sa catéchèse en revenant sur le credo.
Minuit 30.
L'actualité de l'Afrique.
Rendez-vous avec l'Afrique.
L'actualité de toute l'Église.
C'est tous les jours sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Sophie Gilleneuve. Retrouvez-moi dans 1000 questions à la fois, l'émission qui répond à toutes nos questions sur la foi et l'Église. Devons-nous obéir au pape ? L'Église condamne-t-elle l'homosexualité ? Devons-nous craindre le jugement de Dieu ? Chaque semaine, un invité répond, explique, éclaire. 1000 questions à la fois, c'est une émission qui ouvre toujours des perspectives, en partenariat avec le site croire.com.
1000 questions à la fois, avec Sophie de Villeneuve, tous les mardis à 21h30 sur Radio Notre-Dame.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Après la pauvreté en janvier, la famille est le thème de notre deuxième journée de débat. Reportages, témoignages, interviews et bien sûr tables rondes se succéderont tout au long de ce 19 mars. Avec en prime, un débat le soir en direct de la conférence des évêques de France à Paris. Parce que l'antenne de Radio Notre-Dame se doit d'être un lieu d'échange, de réflexion et de recherche. Quel regard porter sur les familles d'aujourd'hui ? Ce sera le thème du 19 mars cette année à l'occasion de la Saint-Joseph.
Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
Voilà, ce soir avec le pasteur Philippe Osné, le thème « Renoncer à soi-même et porter chaque jour sa croix », c'est le programme, et suivre Jésus de cette façon, c'est le programme que nous propose Jésus. Ça n'est pas au premier abord, pour notre nature, ça paraît difficile. Et pourtant, lorsque l'on accepte ce programme, quand on est chrétien, ça devrait aller de soi. Mais il y a à renoncer au vieil homme, finalement.
À ses désirs égoïstes.
Voilà. Pour s'ouvrir à une vie beaucoup plus, à une vie donnée, en fait. Et donc, avec le Christ, avec Jésus, bien sûr, et à chaque jour, suffit sa peine, on dit chaque jour porter sa croix, et le Seigneur, avec lui, il nous indique, un pas après l'autre, comment vivre, il nous conduit, si on se laisse conduire, évidemment, si on accepte, parce que c'est toujours librement, on en reparlera.
Et oui, c'est un choix libre. On peut très bien, passer à côté. Et on le fait tous, par moments.
Bah oui, bien sûr.
La perfection.
Mais justement, c'est reproposé, c'est notre chemin de conversion. Progressif.
Et c'est ça, la sanctification, le chemin de la sainteté, c'est d'accepter nos échecs et de les tourner en réussite. Donc, ça nécessite du courage. D'abord, d'accepter qu'on s'est trompé. Et ensuite, de faire volte-face, de faire demi-tour. Voilà, bien mais sûr. Tous, on a à le faire.
Ben oui, bien sûr.
On n'a pas tout réussi. Sinon, ça se saurait.
Oui.
Et des foules accourraient vers nous. Ce qui était le cas pour Jésus, puisqu'il a tout réussi, lui.
Oui. Mais il a donné sa vie totalement.
Il a donné sa vie totalement.
Il est venu pour ça.
Je disais il y a quelques minutes qu'il y en a peut-être parmi nos amis auditeurs, auditrices, qui ont comme un goût amer dans la bouche et dans le cœur. Parce que ils n'arrivent peut-être pas à renoncer à eux-mêmes, à porter leur croix et à suivre Jésus. Alors moi je propose maintenant qu'on se recueille quelques instants ici dans le studio et avec nos amis qui nous écoutent pour prier et demander à Dieu donc cette grâce de l'abandon qu'il nous aide à mieux renoncer à nous-mêmes et à porter notre croix, et sans gémir, nous plaindre.
Oui. Sans nous plaindre, oui.
C'est pas facile, mais en travaillant nos vies, on y arrive petit à petit. Voilà, donc on va prier pour ça. Oui. Si vous demandez à Dieu donc cette grâce de l'abandon, maintenant, fermez vos yeux, pour ceux qui le veulent bien, et puis vous apporter à Dieu votre vie. Je crois que le premier sacrifice que Dieu nous demande, c'est celui de notre vie. Et c'est peut-être le plus difficile à faire. Seigneur, j'abandonne ma vie maintenant entre tes mains. Je renonce à moi-même, à ma propre vie, et je veux devenir ton instrument. Je veux vraiment être rempli de toi. J'accepte que tu sois mon sauveur et mon Seigneur, et que tu puisses désormais m'utiliser comme tu le voudras, comme tu as utilisé ton fils Jésus et tu l'as conduit par ce chemin de la croix. Alors, ceux qui le veulent parmi nous, bien sûr, peuvent faire ce premier pas de donner leur vie. Et Dieu entend ces prières, il entend. Et si vous n'arrivez pas à faire ce pas, ne vous en voulez pas. Il y a un temps pour tout. Vous pouvez peut-être dire, Seigneur, j'ai pas pu faire cette prière ce soir, mais prépare ma vie pour que je puisse la faire bientôt. Prépare mon cœur, libère-moi de manière que je puisse vraiment me donner totalement à toi. Et je pense à ce petit garçon africain. Pendant un office, il y a eu une collecte, comme il y a souvent. Et donc là-bas, il passe un panier en osier, et puis on met son offrande, on met des petits sous. Et puis ce petit garçon, il était très perplexe et il s'est dit, mais moi j'ai rien à donner, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Et puis on a posé le panier devant l'autel, là, devant tout le monde. Et le petit garçon, il a faussé compagnie à sa mère. Il est allé vers le panier et s'est mis dedans. Et il a dit, Seigneur, j'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Voilà. Et devant tout le monde, il s'est mis dans le panier. Et Seigneur, je crois que tu agrées ce soir tout sacrifice fait pour toi. Voilà, donnons des défauts à Dieu, donnons voilà ce qui nous fait mal. Nous prions maintenant aussi pour Khadija. C'est une dame ou une jeune femme, je ne sais pas, je ne la connais pas, qui est marocaine et qui est très malade. Et nous allons prier maintenant pour elle, Seigneur. Elle appelle au secours, elle demande la prière. Alors guéris-la, s'il te plaît. Soulage ses souffrances. Elle a le courage de téléphoner pour demander la prière. C'est à toi qu'elle demande. Jésus, eh bien, pose ta main. Tu as guéri les malades. Alors guéris-la maintenant. Soyez soulagés maintenant, Khadija, si vous êtes toujours à l'écoute. Mais peu importe, même si vous n'êtes plus à l'écoute, Dieu vous touche de toute manière par sa grâce abondante. Alors Seigneur, nous voulons conclure ce petit moment de prière, eh bien, tout simplement en priant les uns pour les autres. Et ce que je vous propose, amis auditeurs, auditrices, c'est de penser aux autres qui écoutent cette émission. Prions maintenant intensément les uns pour les autres, pour que Dieu prenne la première place et que beaucoup reçoivent des grâces en cet instant. Je vais me taire quelques instants. On va laisser cette magnifique harpe jouer pour nous. Et pendant ce petit moment, eh bien, intercédons les uns pour les autres. Prions pour nous tous. Nous sommes peut-être des milliers à écouter cette émission, c'est même sûr, et dans plusieurs pays. Alors prions les uns pour les autres. Amen.
Amen. Thank you. pasteur Philippe Osney. Pour ce temps de prière, le Seigneur a entendu ces...
Je pense qu'il a fait son œuvre.
Il a fait son œuvre.
Et il voit dans le secret.
Il connaît tous les cœurs.
Il voit dans le secret.
Oui, de chacun.
Même quand on ne lui parle pas d'une manière audible, mais qu'on s'adresse à lui de tout notre cœur, il va répondre.
Bien sûr.
Mais pas répondre comme nous l'aurions pensé quelquefois, mais en tout cas, il va répondre.
Voilà, oui.
Et donc, pendant cette émission, eh bien, nous pouvons affirmer, nous, depuis le studio, que Dieu a agi, Dieu a consolé, a guéri. Il a fait quelque chose pour chacun d'entre nous. C'est magnifique.
Merci Seigneur, merci. Tu es grand. Alors justement, renoncer à nous-mêmes, et porter sa croix. Quels sont alors les obstacles peut-être au renoncement à soi-même?
C'est quand on cherche son plaisir plutôt que le bonheur de Dieu. Quand on s'est assis, nous, sur le trône, au lieu de laisser Dieu s'asseoir sur ce trône.
Et être ses serviteurs.
Voilà. Donc, on peut très bien... Alors, l'égoïsme, l'orgueil, un caractère trop prononcé, trop affirmé, peut-être s'interposer, là. Il faut apprendre à... J'allais dire mettre en veilleuse, si on veut.
Oui, voilà, c'est ça, pour le laisser, lui, en premier passer.
Le laisser en premier, ça veut dire quoi? Quand on veut laisser passer quelqu'un devant nous,
eh bien, on se met de côté,
on ralentit le rythme.
Oui, oui.
Donc, il faut diminuer pour que Dieu croisse en nous. Alors, les obstacles, ils sont nombreux, mais l'égoïsme, l'orgueil, le refus de se donner, peut-être parce qu'on a beaucoup souffert avant, on n'a plus trop
besoin
envie.
Besoin de guérison d'abord.
Enfin. Oui, besoin de guérison.
Mais
de,
Dieu le sait, donc
de rétablissement.
Lui demander justement de pouvoir qu'il vienne nous guérir pour pouvoir se donner.
Oui.
C'est pas pour en soi un but, mais pour pouvoir être apte à se donner.
Oui, parce qu'on ne peut pas donner des choses sur lesquelles on est encore crispé.
Oui. Et le traumatisme, les blessures,
elles sont là justement pour nous faire souffrir. Et quand on souffre, bien
on se rétracte. Oui.
On a du mal à donner.
Oui. Alors justement, Dieu veut guérir ces souffrances pour pouvoir se détendre et donner, s'ouvrir. Voilà.
Vraiment.
Donc, tout ce qu'il y a comme souffrance encore sur lesquelles on est crispé, eh bien voilà, on peut demander au Seigneur de venir les guérir dans ce but de pouvoir se donner.
Oui, et il mettra un baume et il va cautériser les plaies. Et là, on sera peut-être plus capable de redonner ou de donner.
Oui.
Mais c'est pas toujours facile. Le chemin de Dieu n'est pas un chemin facile. Mais par contre, c'est un chemin profond. C'est un chemin intelligent. C'est un chemin où on ne regrettera rien. Et ça, on le saura quand on sera de l'autre côté, quand on passera dans l'éternité. Il y aura beaucoup de surprises. La Bible dit que les premiers seront les derniers, et les derniers les premiers. Donc ne nous fions pas à, j'allais dire, ces grandes vedettes, et je parle pas là de du domaine de la chanson spécialement, mais... Ne nous fions pas aux apparences. C'est pas parce que quelqu'un déchaîne les foules que ça veut dire qu'il a la première place. La première place, c'est quelquefois
la plus humble,
celle du petit que Dieu regarde, Et je crois que réussir sa vie, c'est pas forcément avoir beaucoup d'argent, c'est pas forcément avoir beaucoup d'enfants. C'est pas avoir exercé une profession brillante. Réussir sa vie, je crois que c'est avoir réussi à la donner à Dieu et aux autres. Pour moi, c'est ça la réussite.
Oui.
C'est ça.
Ben oui, c'est le but profond.
Oui.
Donc, oui.
Et il y en a dont le nom ne sera jamais connu et qui auront fait sur cette terre des choses absolument extraordinaires, mais d'une manière cachée.
Ben oui,
mais alors ça, ceux-là, ce sont les derniers, mais ils seront les premiers.
L'homme regarde aux apparences, Dieu au cœur.
Au cœur, il n'oublie personne. Et si on a beaucoup souffert, si on a subi beaucoup d'injustices, si on a été abaissé, Dieu le sait. Il n'y a pas besoin de nous justifier. Dieu nous justifiera un jour. Et celui qui nous a terrorisés, dominés, au nom de son pouvoir, il va le perdre un jour, ce pouvoir-là.
Mais oui, c'est...
Il va le perdre. Et des comptes lui seront redemandés. Voilà, parce qu'il n'a pas beaucoup aimé. Le sens de la vie, c'est d'aimer. La mesure de l'amour... C'est d'aimer sans mesure.
Et ce temps nous est donné pour apprendre cela.
Et je crois que c'est le sens de la vie sur la terre. Tenir la porte à quelqu'un. Mais même dans le métro,
des petites choses.
Il y a des personnes sympathiques, vous savez, vous passez derrière là, le portillon, puis ils vous tiennent la porte. Et le jour, il y a quelqu'un qui a attendu, j'étais à 4 mètres. Cette personne a attendu que je fasse les 4 mètres. Avec un sourire, elle a maintenu la porte. J'ai prié pour elle, elle ne le sait pas. J'ai dit, Seigneur,
bénis-la.
Tu l'as bénie parce qu'elle, tu l'as bénie parce qu'elle m'a bénie par son amour.
Elle a remarqué que vous étiez là.
Voilà.
Et elle a attendu.
Elle a pensé que c'était important. Elle a sacrifié un peu de son temps. Et ça, c'est beau. Et il y a plein de petits actes comme ça dans la vie quotidienne.
C'est des petites choses.
Et c'est Dieu qui agit. Alors donc, surtout, ne perdons pas courage. Il y a tellement de choses à faire.
Et c'est ça aussi, renoncer à soi-même, là, quelque part, c'est une petite chose, mais il y a des choses très... C'est très simple.
C'est très simple.
C'est déjà, le quotidien.
Il faut commencer par les petites choses. Puis Dieu nous en confiera de plus grandes après. Mais il faut commencer par les toutes petites choses. Toutes petites. Un sourire. De la politesse. Merci beaucoup. Bonjour. Maintenant, j'ai appris quand je rentre, soit au bureau de poste, soit ailleurs, à dire bonjour.
Voilà
et les autres répondent. Il y en a plusieurs qui répondent. Mais soyons un ferment de paix, un ferment
relationnel.
Commençons,
n'attendons pas que les autres commencent.
Mais non. Voilà. Et chose toute bête, je vais à la pharmacie chaque mois, parce que je suis sous traitement, un traitement pas grave du tout. Et j'ai appris à serrer la main, à la personne qui est là derrière le comptoir, à lui dire comment allez-vous ? Et maintenant, quand je vais à la pharmacie, on me fait des sourires. Bonjour, j'entends bonjour. J'arrive, ça y est.
C'est la relation, elle est établie, c'est pas anonyme.
C'est ça, et on récolte ce qu'on a semé.
Bien sûr.
Si on a semé de l'amour, de l'intérêt, on va s'intéresser à nous et on va nous aimer.
Oui, tout à fait.
Donc, n'oublions pas les petits commencements, surtout. Il y a toujours quelque chose à faire pour que l'autre soit béni. Voilà. Qu'est-ce que vous allez nous proposer, Chantal ? Je vous vois avec un grand sourire. Elle a tiré depuis son sac. On est tous témoins.
C'est la chaise à côté de moi.
Chaise.
C'est tiré ma feuille.
J'ai vu qu'elle tirait de quelque chose.
Posais... Pour prendre.
Elle prend une feuille. Alors,
le programme musical, c'est Luigi Boccherini, l'ensemble La Folia, et c'est un Stabat Mater, un extrait d'un Stabat Mater.
Radio Notre-Dame.
Thank you.
Un extrait du Stabat Mater de Luigi Boccherini par l'ensemble La Folia. Nous avons en ligne tout de suite, c'est Adrienne qui appelle depuis le sud-est de la France. Bonsoir Adrienne.
Oui, bonsoir Madame Chantal Bailly.
Bonsoir.
Père Philippe Hausnay. Oui, bien, je pense qu'il y a beaucoup de joie à agir comme vous le conseillez, parce que quand on se décentre de soi et que nous faisons abandon de notre libre arbitre, ben, on s'aperçoit qu'effectivement, on a une toute autre façon d'être déjà, parce qu'on a cette paix qui nous est donnée, cette joie et qui en fait, on est revêtu de cet état et on va vers les autres parce que déjà notre premier prochain c'est nous-mêmes et quand on a compris que avec le Christ, eh ben, l'Esprit Saint nous permet par rapport à autrui de se présenter de façon la plus, je veux dire, adéquate, c'est-à-dire ben, l'autre, ben, un sourire, même c'est pas forcé du tout parce que voilà, on est revêtu de cette paix et on est avec cette grâce que l'autre voit en fait, parce qu'on sourit et que on va parler, comme vous dites, et puis c'est un trait d'union qui fait que le Seigneur après œuvre dans le cœur des gens. Il y a ça, et c'est vrai que dans la souffrance, ben, je me dis que la souffrance, quelle que soit notre problématique, hein, que ce soit la maladie, ben, quelque événement que ce soit, les soucis, bon, et ben, si on accueille tout événement, qu'on fasse offrande de cette souffrance, on fait l'offrande, on confie toutes choses, en étant des acteurs, bien sûr, parce qu'on sait que si on offre la souffrance, elle sera habitée par le Christ. Et donc, alors, on aura un sens à donner à notre vie, c'est-à-dire on sera en cohérence avec ce que nous sommes, ce que nous faisons, parce qu'on sait que symboliquement, cette souffrance, elle a été déjà portée par le Christ, mais nous, on l'offre avec le Christ pour le monde. Alors, on va prier pour quelques autres personnes, ou de quelqu'un qu'on connaît qui est encore, qui souffre, mais peut-être moins que nous, ou différemment, avec d'autres préoccupations qui sont aussi des vraies béances, des fois d'amour, que de manque d'amour, ou je sais trop quoi. Et bien là, on va prier aussi, enfin, c'est une démarche de cœur qu'on fait, dans l'abandon aussi, et d'offrande. Et là, moi je vois que ça apporte effectivement, on est libéré, on est allégé dans notre poids de souffrance, parce que les épreuves, pour moi je trouve qu'on les traverse toujours, on les accueille avec le Christ. Et là alors, c'est vrai qu'on a un tout autre regard sur les choses, et on peut contourner des choses difficiles, on peut les apprécier à leur juste valeur, mais en mettant toujours un positif. Et là, eh ben, oui. On a une toute autre façon d'aborder les gens, la vie, les circonstances, et on a toujours les solutions, parce que le Seigneur nous montre comment faire, dans le silence déjà, en louant, bénissant, en remerciant, et dans cette prière qu'on est dans le silence, et on a une parole qui nous est donnée, ben, elle va nous être, je veux dire, une parole de vie pour nous, parce que le Seigneur a le dessein, c'est le dessein d'amour, un désir que le Seigneur veut nous donner, parce que nous, si on donne notre volonté, notre abandon total au cœur à cœur du Christ, eh bien là, on est investi par la Trinité, par la force divine, et on vit en réalité dans ce monde, mais en n'étant pas du monde, mais en y étant quand même, parce que on est en lien de proximité avec les gens. Voilà.
Tout à fait, tout à fait, oui.
Ce que je pense.
Oui, oui, oui.
Ça rejoint exactement ce que vous dites, mon père, parce que c'est justement dans ce regard que ce qu'on trouve peut-être pas dans d'autres religions, il y a d'autres façons de cheminer dans une foi personnelle, parce qu'il faut, moi je crois qu'il faut donner, il faut chercher le sens de la vie. Quel est le sens de la vie ici-bas? C'est vraiment une chance inouïe que l'on a de vivre, hein, déjà, en ce monde. C'est sûr qu'il y a des laideurs, il y a des choses pas possibles qui se passent, parce que l'homme, c'est un loup pour l'homme, pour des possessions, pour des idées complètement, je veux dire, aberrantes. S'il y avait un tant soit peu la connaissance qu'il y a un Christ, et qu'il est venu pour chacun de nous, pour quelque religion que nous soyons, autant qu'il y en a 4000, je crois, de religions, s'il y avait vraiment ce regard vers le Christ, qu'il est venu nous sauver tous, c'est-à-dire, c'est une symbolique, c'est le Dieu du cosmos, enfin je veux dire, il faut se mettre dans une position humble, mais avec c'est prodigieux, quoi. On changerait la face du monde, quoi.
Très bien.
Merci
pour votre...
Merci de ce partage, Adrienne.
Bonsoir.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.
Bonsoir, Adrienne. Voilà, je crois que nous avons en ligne Gérard.
Oui, Gérard, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Chantal et Pasteur.
Bonsoir.
Merveilleuse, Adrienne.
Ah oui, hein, c'est beau.
Elle a de quoi dire. Elle a beaucoup de choses à dire, hein.
Oui. C'est profond, oui.
Moi, j'ai pris l'émission parce que je suis rentré très tard, complètement fourbu, et avec mes handicaps terribles, et je me suis fait reconduire par une dame en voiture. J'étais à pied, je ne pouvais plus marcher. J'ai demandé comme ça, femme de ménage de maison de retraite, et je suis rentré. C'est vraiment de la joie, quoi.
Et ben voilà, il y a un partage là qui s'est produit.
Et vraiment, je vous ai écouté là. On dit pas mon père, je crois.
Pasteur, oui, Pasteur Philippe.
Pasteur, c'est ça. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois que j'ai l'honneur de parler un petit peu avec vous. Et vraiment, vous me plongez dans la béatitude, quoi, parce que c'est tout mon cheminement accidenté. Très jeune, j'ai 57 ans, et à 22, 23 ans, j'ai offert ma vie comme ça. J'ai dit, vas-y, fais ce que tu veux de moi. Et franchement, il s'est pas moqué de moi, il a fait comme le grain de blé sous la pierre de meule, vous savez.
Ah, oui.
Bien cette image, c'est pas masochiste, attention. Hein.
Non,
pas du tout. Mais alors, c'est terrible, hein. Il faut passer par des choses.
Oui, c'est pas facile par moment, hein. Il y a des étapes qui sont difficiles à parcourir. Et je crois que c'est Jésus qui a dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Oui, mais alors, moi, ce que j'ai constaté depuis quelques années, parce que ça m'a travaillé tout petit, déjà, j'étais très curieux de nature. J'avais de très grands frères et sœurs, beaucoup plus âgés que moi. Et je voulais comprendre ce qu'eux comprenaient, que moi je ne pouvais pas encore, parce que j'étais tout petit, quoi. Et ça m'est resté un peu toute ma vie. Et bien maintenant, je pense à cette phrase, je ne vous appelle plus serviteur mais ami.
Oui.
Hein, parce que le serviteur ne connaît pas la volonté de son maître. Pourquoi? Et maintenant, il m'explique, depuis des années, je me mets à l'écoute, pourquoi il a fait ça de moi, quoi. Qu'est-ce qui est vraiment, sur le plan humain, c'est détestable, hein. C'est vraiment pas, même pas recommandable ou quoi que ce soit extérieurement, hein, je veux dire, d'un point de vue purement conventionnel, c'est choquant, quoi. Et en fait, je peux pas transmettre à d'autres, évidemment c'est personnel, hein. J'ai fini par comprendre pourquoi il m'avait conduit sur des chemins aussi contradictoires.
Ah oui. Mais oui.
Merveilleux. Et ça conduit, enfin, franchement, c'est l'esprit des béatitudes qui en ressort, quoi. Enfin, dans mon expérience actuelle, j'essaie de m'ouvrir de plus en plus à cette carême, justement, je le disais à Chantal la semaine dernière, avec Guy Gibert. Moi, j'essaie d'offrir un petit peu, d'arrêter de me révolter, parce que il y a de la révolte, hein, moi, vous savez.
Ben oui, il y a des moments où c'est pas facile.
Et vous enseignez, justement, de ce fait de, comme vous disiez à l'instant même, enfin, qu'il y a quelques instants, quoi, l'ego, il est très, 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 très sournois.
Oui, il est beaucoup plus présent que ce qu'on peut penser.
Il est très intelligent, notre ego.
Voilà, il sait se réveiller à l'heure où on n'y l'attend pas. Il faut le surveiller.
Oui, et il se trouve des prétextes.
Des prétextes, toujours.
Oui, fabuleux. Hein.
Oui.
On sait que j'en suis arrivé là, enfin, c'est pas normal, quoi. Abandonner ça. Saint François d'Assise, d'ailleurs, je crois, a vécu cette terrible épreuve du renoncement à la réussite.
Oui.
De son œuvre, je crois. Hein. J'avais lu ça il y a très longtemps.
Oui.
Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile.
Il faut accepter de ne plus réussir quelquefois pour le monde, afin de réussir pour Dieu. Et il n'y a que Dieu qui voit notre réussite.
Et puis
êtres humains ne la voient pas.
C'est le sens de la croix de Jésus. Hein.
Oui. Et tant mieux, finalement, qu'il ne la voit pas. On repartira vers le ciel comme grand incognito, mais pas pour Dieu.
Voilà, oui.
Et totalement dépouillé, en fait, de nous-mêmes.
Totalement, je ne sais pas, mais en tout cas, oui.
Avec de grands...
Dépouillé. Ah, dépouillé de tellement de choses.
Oui, parce que tant que nous ne le sommes pas, en fait, nous restons, on dit, infructueux. Enfin, il faut vraiment du renoncement total. C'est pour ça que j'aime beaucoup votre enseignement d'offrande.
Oui, c'est nécessaire. Et surtout dans ce monde maintenant qui prône le plaisir comme instrument du bonheur.
Le mythe de la réussite.
On évacue la souffrance, on évacue la purification et on se trompe complètement parce que plus on aura du plaisir, plus on va entretenir notre ego, et bien plus on va le renforcer et plus cet ego va s'opposer à Dieu.
L'idolâtrie vis-à-vis de la beauté,
c'est ça. Tout ça. Oui, se faire plaisir à soi-même,
se
pomponner et puis passer son temps à s'idolâtrer finalement. Hein. Voilà. Enfin, chacun son choix. Mais le chemin de la sainteté, c'est pas non plus de se haïr et de se négliger, mais c'est en tout cas de faire passer Dieu et les autres en premier, sans se négliger soi-même également. Merci beaucoup, Gérard.
Merci, Gérard. Oui. Merci
de ce partage. Et finalement, juste le petit mot du pape François, là, qui au début du carême dit « Sortez des idolâtries de toutes sortes
oui. ». Oui, c'est juste.
Enfin, je vous remercie beaucoup pour votre émission.
Merci beaucoup à vous.
Merci de ce partage, Gérard. Merci.
Voilà,
ben nous arrivons, vous voyez, la sœur Philipposenée juste à la fin.
Ça a passé très vite. Hein.
Oui, ça passe très vite. Et merci en tout cas de ces deux heures. Vous nous avez conduits sur un chemin, le chemin que Jésus nous propose. Hein, et c'est bien de le rappeler, ce renoncement à soi-même.
Mais c'est une proposition, c'est pas une imposition.
Voilà,
il nous laisse libre de nous engager ou non dans l'empreinte de ses pas. Et celui qui le fait, eh bien heureux est-il, parce qu'il va vivre un grand bonheur intérieur finalement.
Ce que nous rappelait Gérard, le chemin des béatitudes. Grand merci.
Voilà, mais non.
Merci aussi à tous nos auditeurs pour ces partages, pour cette écoute. Merci pour la prière que vous avez menée tout à l'heure. Merci également à Dorothée qui était au standard et Guillaume à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Mardi à 22h, écoute dans la nuit, notre invité sera Olivier Belleil, qui est membre de la communauté du Verbe de vie. Enseignant de formation, il a écrit plusieurs livres sur la parole de Dieu en se mettant à son écoute et à la veille de la fête de Saint-Joseph. Il nous fera découvrir comment être père selon la Bible. Voilà, je vous souhaite une très très bonne nuit à tous, une bonne fin de semaine, un bon dimanche de carême et peut-être le temps aussi de vous dire que lundi, ce lundi 17, et si vous êtes à Paris, Bertrand Vergely, le philosophe qui est de confession orthodoxe, sera donc au Forum 104 à Paris, 104 rue de Vaugirard, Paris 6e, à 19h30 lundi 17 pour une conférence de la peur à la liberté, ce sera le thème. Donc lundi 17, 19h30 au Forum 104 rue de Vaugirard. Et puis le mercredi 19 mars à 20h30, Alain Noël, que vous connaissez bien, sera donc à l'église de Dourdan, dans l'Essonne, pour une soirée prière-enseignement sur le combat spirituel à partir de son livre, Le combat spirituel, manuel de combat spirituel. Donc le combat spirituel, sortons de nos conflits intérieurs pour mener le bon combat. C'est à Dourdan, l'église de Dourdan, Alain Noël, mercredi 19 mars, 20h30. Voilà, très bon dimanche de carême.